Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous et merci de répondre à ce rendez-vous de Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Nous parlons aujourd'hui de la malnutrition chez les enfants et les jeunes. La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante en RDC. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, un enfant meurt toutes les 6 secondes de la faim. Cela signifie plus de 5 millions chaque année en Afrique. La République démocratique du Congo est l'un des pays fortement touchés par la malnutrition au sein du continent, selon les agences du système des Nations Unies. Dans cette émission Bana Okapi, nous ferons le point de la situation nutritionnelle à Beni, à Bukavu, à Bunia, dans la partie est de la RDC. Et la deuxième partie de cette émission sera consacrée à nos invités. Je suis Sarah Sumbela à la présentation de cette émission, une mise en onde de Pierre Diassinois.
Okapi, Radio Okapi.
La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante en RDC. L'analyse IPC malnutrition aiguë, conduite en octobre 2023 dont les résultats ont été présentés en juin dernier, rapporte que près de 1,1 million d'enfants de moins de 5 ans et plus de 605 000 femmes enceintes ou allaitantes souffriront probablement de malnutrition aiguë entre juillet 2023 et juin 2024 dans 112 zones de santé analysées sur les 519 zones de santé que compte le pays. Le point de la situation avec Stanislas Diomi.
Parmi ces enfants, plus de 250 000 seraient gravement malnutris et nécessiteraient une prise en charge urgente. Il s'agit d'une couverture partielle du pays qui donne une image de la sévérité de la malnutrition aiguë dans les zones de santé les plus affectées en RDC. Le taux de retard de croissance en RDC est l'un des plus élevés d'Afrique subsaharienne et la malnutrition est la cause sous-jacente de près de la moitié des décès dans cette classe d'âge. Et contrairement à d'autres pays africains, la prévalence du retard de croissance en RDC n'a pas diminué au cours des 20 dernières années. En raison d'un taux de fécondité très élevé, le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance a augmenté de 1,5 million. La RDC se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain 2020, conséquence de la décennie des conflits, de fragilité et de développement compromis. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37 au-dessous de la moyenne de pays d'Afrique subsaharienne. Cela signifie qu'un enfant congolais né aujourd'hui ne peut espérer réaliser que 37% de son potentiel par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié d'une scolarité complète et de qualité et des conditions de santé optimales. Les principaux facteurs à l'origine de ces scores sont le faible taux de survie des enfants de moins de 5 ans, le fort taux de retard de croissance des enfants et la piètre qualité de l'éducation.
Merci beaucoup Stanislas Diomi.
Okapi.
Direction à présent Beni. Les spécialistes en nutrition à l'hôpital général de Beni affirment que plusieurs personnes, plus particulièrement les enfants de 0 à 5 ans, meurent à cause de la nutrition due à un déséquilibre alimentaire pour plusieurs raisons. L'accompagnement médical dès la conception chez les femmes est souhaité. Guylaine Kassassia pour le point.
La malnutrition est une pathologie qui se caractérise par un déséquilibre alimentaire qui peut être par excès ou par carence, explique Abigail Le Siriwayo, nutritionniste à l'hôpital général de référence de Béni. Dans la région de Béni, la cause majeure de la malnutrition est la guerre qui est à la base des déplacements des habitants dépourvus de moyens de survie.
Et si nous focalisons sur la malnutrition par carence, les causes sont multiples. Bon, nous avons d'abord les causes qui nous entourent, la guerre par-ci par-là. Et à plus, la taille des ménages est augmentée par rapport aux revenus et les grossesses rapprochées. C'est cela les causes de la malnutrition par carence. Les sécurités, parce que nous n'avons pas accès à nos chats pour avoir des aliments. C'est pour cela que la guerre aussi fait partie des causes de la malnutrition.
Et cela n'est pas sans conséquence, comme l'explique encore Abigail Siriwayo.
La conséquence de la malnutrition, nous avons premièrement l'arrêt de croissance chez les enfants. Donc, l'enfant n'aura pas d'intelligence, l'enfant n'aura pas de taille normale par rapport à son âge, l'enfant n'aura pas les poids conformes à sa taille. Et sur la santé, on peut y avoir le rachitisme et d'autres maladies qui s'installent parce que le terrain est déprimé. L'enfant n'a pas des anticorps pour combattre certaines maladies. Si l'enfant a la malnutrition pendant les 1000 premiers jours de sa vie, c'est difficile de la récupérer après.
À cause de la malnutrition causée par la guerre, Janine Kavuo, nom d'emprunt de cette mère de famille que nous retrouvons à l'hôpital, parle de la situation de son enfant de 8 ans. Mon enfant a 8 ans aujourd'hui. Lorsqu'il était bébé, il était tombé gravement malade. Il a eu le kwashiorkor qui a perduré. Il a ensuite eu la méningite, ce qui a aggravé sa maladie. J'ai fréquenté plusieurs structures sanitaires sans succès. Je suis ici depuis 2 semaines. Je vois un grand changement. Il pesait 8 kilos le jour où nous sommes arrivés alors qu'il a 8 ans. Aujourd'hui, il a augmenté de 5 kilos. On nous a prescrit du lait, de la bouillie, du haricots et beaucoup d'autres aliments. Depuis la conception de cet enfant en 2016, nous fuyons toujours la guerre. La vie que nous menons comme déplacés ne me permet pas de trouver à manger, mais aussi le nourrir comme cela était le cas dans les passés. À côté de Janine Kavuo se trouve une autre femme avec son nourrisson qui souffre de malnutrition aiguë. Elle explique avoir eu carence de lait maternel, ce qui l'a poussée à recourir au lait animal sans aucune orientation médicale. Elle appelle d'autres parents à se référer au personnel soignant en cas de complications sanitaires. Pour garder un bon équilibre de nutrition, les nutritionnistes conseillent une alimentation dite à 4 étoiles, c'est-à-dire basée sur les aliments riches en protéines végétales et en protéines animales telles que les arachides, du champignon, de la farine d'avoine, du jambon, de la volaille, du saumon, de la viande de bœuf, mais aussi des légumineuses et de fruits. Ils recommandent également un suivi strict de femmes enceintes de la conception, mais aussi de femmes allaitantes. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
À Goma, l'orphelinat Foyer de l'Espérance de l'association Amour accueille aujourd'hui plus de 100 enfants, parmi eux de dizaines âgés de moins de 5 ans. Ces enfants arrivent en état de malnutrition sévère. Rosalie Zawadi a visité cet orphelinat pour voir comment les enfants malnutris sont pris en charge. On l'écoute.
Le matin, dans cet orphelinat, les enfants chantent, histoire de partager une énergie positive dans les centres. À tour de rôle, ils passent devant pour démontrer leur danse conventionnelle. Mais derrière cette image d'ensemble, chaque enfant a son histoire. Fidel Bahati, responsable du foyer de l'Espérance, nous parle ici de l'histoire d'un enfant.
Il y a un enfant qui est venu. D'abord, ils étaient déplacés. Ils ont fui leur village. Et cela est arrivé, pourquoi ? Parce que son père a été tué. La maman s'est déplacée et dans la famille de son mari, quand elle allait au champ, elle avait été piquée par un serpent. Alors que l'enfant avait quelques semaines, elle est allée à l'hôpital, on n'a pas pu la sauver, elle est morte. Et on nous avait amené l'enfant à quelques mois et l'enfant était malnutri. Parce qu'il n'y avait personne pour l'allaiter. Nous avons appris, et ça j'avais discuté avec sa grand-mère, comme c'était au village, on a donné des plantes médicinale à la grand-mère pour dire, bon voilà, avec ça, tu auras le lait maternel et tu vas aider l'enfant. Et la tétée, après quelques semaines, c'était vraiment une catastrophe. Raison pour laquelle on l'avait amené ici. C'est vrai que c'était difficile, hein, tout le monde avait peur de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'elle était chétive. Hein. Et finalement, on s'était battu et avec l'aide des dieux, elle s'est rétablie.
Et aujourd'hui, l'enfant a quel âge?
Elle a 6-7 ans, oui.
Madame Melkiada Kibamvunia travaille dans cet orphelinat depuis plus de 6 ans. Elle explique que la récupération d'un seul enfant malnutri est une grande victoire. Dans la prise en charge de ces enfants, l'orphelinat travaille en collaboration avec les centres hospitaliers des sœurs carmélites de Goma.
Lorsque les enfants arrivent ici à l'orphelinat Amour, moi comme leur grand-mère, je les amène au centre hospitalier Mont Carmel. Les sœurs nous aident dans leur prise en charge. Quitter cet état de malnutrition sévère n'est pas facile. Sans assistance, l'enfant risque de rechuter. Dans cet état, les enfants risquent même de perdre leur vie. Grâce à Dieu et à l'élévation de personnes de bonne volonté, les enfants retrouvent leur santé. Les enfants que nous recevons présentent deux situations différentes. Il y a ceux qui ont un gonflement du corps et d'autres sont très très maigres. La situation de ces derniers est la plus critique. À l'hôpital, on donne du lait thérapeutique et ceux qui ont le corps gonflé font la diarrhée pour évacuer tous les mauvais liquides qu'ils ont dans les corps. Et si nous n'avons pas du savon pour leur hygiène, c'est aussi compliqué. Comme aujourd'hui ici, à l'orphelinat, nous n'avons rien. Tu vois, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore allumé les feux car nous n'avons pas de braise. Que les personnes de bonne volonté nous assistent avec ce qu'ils peuvent trouver pour aider ces enfants en situation difficile.
Fidel Bahati, responsable de l'orphelinat, explique la catégorie d'enfants reçus ici.
En fait, les enfants que nous recevons sont d'abord orphelins et puis malnutris. Pourquoi? Parce que il est difficile pour le moment d'accueillir tous les enfants orphelins. Avec les guerres à répétition, il y a des parents tués chaque jour et qui laissent derrière eux des orphelins. Raison pour laquelle c'est vraiment difficile d'encadrer tout le monde. Et notre choix a porté sur les enfants orphelins, oui, mais qui ont la malnutrition aiguë sévère pour tenter de sauver ces vies.
Expliquez-nous un peu l'état dans lequel les enfants vous arrivent.
Tous les enfants qui viennent dans l'état de malnutrition aiguë sévère. Et notre mission, c'est de les aider, d'abord par le traitement, et nous les envoyons dans des centres nutritionnels, et là, ils sont traités. Malheureusement, il y a ceux qui ne parviennent pas à être sauvés. Pendant ces 10 ans, on a perdu à peu près une dizaine et d'autres ont été sauvés. Donc nous avons ici, nous encadrons 109 enfants. Tous sont venus dans cet état de malnutrition aiguë sévère. Et grâce à Dieu, ils ont été aidés et grâce aussi aux personnes de bonne volonté. Parce que bon, on n'est pas financé, on n'a pas d'argent et puis bon. Pour le moment, il y a des cas qu'on nous amène et nous sommes incapables, faute des moyens, de les accueillir. Nous traversons des périodes vraiment difficiles. L'attention est tournée dans les camps des déplacés, parce qu'aujourd'hui, bon, tous les donateurs se focalisent là, alors qu'il y a d'autres problèmes, notamment les problèmes des orphelinats, les centres d'accueil et d'hébergement transitoire, qui, la plupart, ne sont plus considérés.
Pour vous, c'est quoi la plus grande cause de la malnutrition des enfants qui passe par votre centre?
C'est vraiment dommage, hein? Comme on le disait que le Nord Kivu, à l'époque, on disait que c'était le grenier de la RDC. Et avec les guerres, parce que les guerres sont plus concentrées dans des villages, dans des territoires, et ces agriculteurs-là, ces cultivateurs ne savent plus travailler. Ils sont déplacés, ils ont quitté leurs champs. Et arrivés dans des cités plus ou moins sécurisées, ils n'ont pas à manger, les enfants n'ont pas à manger, parce qu'ils ne vivaient que de l'agriculture, de l'élevage. Mais ayant tout abandonné, ces gens se déplacent, ils n'ont plus rien, ils doivent attendre la charité pour vivre. Il y a aussi, avec eux, ils amènent des enfants, parce que bon, la guerre fait des victimes, hein, et les enfants sont des premières victimes de ces bêtises auxquelles nous assistons actuellement. Et voilà pourquoi, une fois qu'ils n'ont plus à manger, ils tombent dans la malnutrition. Et il y a beaucoup qui meurent.
Quel est votre message, je ne sais pas, aux autorités pour sauver la vie de ces enfants?
J'ai un seul message. Le message, c'est que les gens prennent conscience. Les guerres ne servent à rien. Les guerres ne sont pas bonnes. Nous devons nous battre pour mettre fin à la guerre. Nous devons tout faire pour mettre fin à la guerre. Nous devons éviter l'égoïsme. Nous devons éviter la violence, le tribalisme. C'est ça le problème que nous avons. Tout le monde veut s'enrichir au dos de ceux qui sont en train de perdre leur vie. Nous devons tout faire que chaque Congolais, chaque Congolaise se batte pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin aux antivaleurs.
Les enfants pris en charge par les foyers de l'espérance évoluent bien, mais courent toujours les risques de rechute, car les centres fonctionnent avec des appuis discontinus des personnes de bonne volonté. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi. Nous parlons de la malnutrition chez les jeunes et les enfants. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, un enfant meurt toutes les 6 secondes de la faim. Cela signifie que plus de 5 millions chaque année en Afrique. La RDC est les plus touchées par la malnutrition au sein du continent, selon les agences du système des Nations Unies. 11 millions d'enfants souffrent de retard de croissance, 4 millions autres sont affectés par la malnutrition aiguë. Nous allons suivre dans cette deuxième partie nos invités nous parler des différentes raisons de la malnutrition en RDC, les solutions mises en place et apporter quelques propositions pour lutter contre cette pathologie. Sarah Soumbela est à la présentation de cette émission. Merci de vous joindre à nous. Si vous nous prenez en cours, sachez que nous parlons de la malnutrition en RDC chez les enfants et les jeunes. En Ituri, de milliers d'enfants présentent des signes de malnutrition dans cette province en proie à l'activisme de groupes armés. La plupart de ces enfants viennent de sites de déplacés dépourvus d'assistance humanitaire, d'autres viennent de familles d'accueil, aussi démunies que vivant jadis des activités champêtres. Selon l'ONG Association de Mamans Anti-Bouaki qui encadre de dizaines d'enfants malnutris, beaucoup d'enfants souffrent des problèmes de malnutrition sévères, aigus ou soit de marasme qui affectent leur santé. Béatrice Duvet, coordonnatrice de cette organisation, nous parle de la problématique de la prise en charge d'enfants malnutris en Ituri dans cet entretien avec Ezekiel Mouzalia.
Madame Béatrice Duve, bonjour.
Bonjour, journaliste.
Je rappelle, vous êtes coordonnatrice de l'ONG AMAB. AMAB, d'abord, c'est quoi?
En fait, AMAB signifie association. A, c'est association. M, c'est maman. A, de l'autre côté, c'est ati, contre. Et B, c'est boaki. Donc, c'est une association des femmes. AMAB signifie association des mamans ati boaki. Nous sommes basés ici à Bounia, mais nous on œuvre presque sur toute la province avec nos différentes activités.
Comment cette organisation est née?
Nous, notre histoire est très vieille. Hein? Nous sommes nés il y a bien longtemps. Nous sommes nés, je crois, la première réunion d'ouverture, c'était au mois d'octobre. J'oubliais pas la date. Au mois d'octobre 1988. Et à ce moment-là, nous, on a... Donc, la base de naissance de cette association, c'était juste une action caritative. Donc, c'est-à-dire, parmi nous, les femmes, parmi nous, les mères, il y avait ces mamans-là qui souffraient à cause de la malnutrition de leurs enfants. Et alors, nous, les autres mamans, on s'est dit comment on peut aider nos concerts. Et c'est comme ça, on a dit, OK, on va les aider, on va commencer à leur donner des petites striques et tout, parce que la grande majorité, c'était des femmes qui étaient un peu démunies. Et puis aussi, c'était des femmes dont les maris étaient lassés dans les autres activités.
Puisque vous parlez justement de problèmes de malnutrition et tout, est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir, vous travaillez comment? Est-ce qu'il y a de... Vous encadrez combien d'enfants peut-être malnutris et ils sont dans quel état?
Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment répondre à votre question d'une manière exacte, pour plusieurs raisons. La MAB a dû prendre le monopole de la lutte contre la malnutrition dans la province de l'Ituri à travers des actions clés de lutte contre la malnutrition. Et nous étions seuls depuis toutes ces années-là. Mais il se peut que, heureusement, à partir de... avant de parler de ça, quelles sont les activités nous ont réalisées? Première activité, c'était recevoir ces enfants-là. Parler aux parents de ces enfants-là. Écouter les problèmes de ces enfants-là. Et on avait trouvé le gros des problèmes était qu'il n'y avait pas assez d'alimentation, surtout alimentation riche au niveau de leur famille. Et là, nous avons lancé l'éducation sanitaire et nutritionnelle pour aider ces femmes avec les peu qu'elles peuvent avoir dans leur foyer, dans leur maison, qu'elles peuvent utiliser ces aliments-là pour protéger et puis pour soigner aussi la malnutrition au niveau. Et dans à ce niveau-là, on organisait des causeries nutritives, des causeries nutritionnelles avec les groupes de femmes pour les informer. Et là, on travaillait plus dans les quartiers de la ville de Bounia. Alors, on a dit aussi, comme il y a quelques enfants qui se voient déjà, si on peut aussi mener les dépistages pour découvrir le vrai nombre d'enfants. Et nous avons fait ça autour des années 1992, 1993, 1994. Et là, on avait beaucoup travaillé sur ce domaine-là.
Et vous pouvez estimer, c'est autour de combien? Juste estimer, hein, le nombre peut-être d'enfants qui présentent des signes de malnutrition et tout.
On est arrivé à soigner, donc entre 1992, parce que j'ai parlé de notre naissance à partir de 1988. Mois d'octobre. Et là, on s'est recherché encore. Nous, on était les femmes comme ça, profanes de milliers. On n'avait aucune information exacte sur la nutrition comme telle. Alors là, on devait se rechercher, on devait utiliser des documentations pour lire un peu, pour aider ces femmes. Donc, pour lire beaucoup, pour comprendre comment on organise une action nutritionnelle. Mais maintenant, pour les enfants, là, on s'arrachait à notre niveau, par nos fonds propres, par l'effort de nos familles, nous les membres de la MAP, on arrivait à organiser les aliments, donc les suppléments alimentaires pour ces enfants-là. On s'organisait à produire des soja, à produire des maïs, et puis acheter des sucres, acheter de l'huile, on faisait des bouillies enrichies, donc les aliments enrichis à base de farine de manioc, de farine de maïs et farine de soja, on faisait ça.
Mais ces enfants viennent d'où? Comment vous faites pour avoir ces enfants, pour trouver ces enfants malnutris?
Les enfants sont dans la communauté. Nous avions, je sais que nous avions commencé avec 11 enfants. Et ça, c'était au niveau de la cité. Aussitôt, quand les gens ont su que non, il y a cette action qui s'organise et que les informations sont parties dans les quartiers, le nombre d'affaires a commencé à augmenter. Et ça augmentait presque toute la semaine parce que là, on organisait seulement l'activité deux fois par semaine. Et là, chaque semaine, le nombre d'affaires a commencé à augmenter. Alors nous nous sommes dit, ok. En plus de ces informations qui partent comme ça, seules, nous aussi, on va commencer à organiser les dépistages dans les communautés. Donc, il y a notre équipe qui allait sur les avenues, dans les quartiers, à la recherche des enfants qui présentaient les signes de la malnutrition.
Nous sommes en 2024. Quelle est la situation actuelle des enfants malnutris dans la ville de Bounia?
Actuellement, nous avons des cas de malnutrition. Ça, si vous allez à l'hôpital général, il y a toute une cellule qui fonctionne avec les enfants. Et ça, ce sont des cas très avancés, des cas qui nécessitent l'hospitalisation. C'est au niveau de l'hôpital général. Alors, nous avons envoyé les enfants à rencontrer les enfants dans la rue comme dans les sites des déplacés, comme dans certains quartiers. Il y a des cas de la malnutrition, il y a les cas sévères qui sont au niveau de l'hôpital général, je dis. Il y a des cas modérés qui sont dans les quartiers. Et puis, il y a d'une manière générale les cas de marasme installé dans notre communauté au niveau de Bounia.
Et vous avez déjà détecté ou bien identifié combien de cas?
Je ne peux pas parler à terme des cas que nous avons identifiés jusqu'à aujourd'hui parce que nous, on est, comme je disais là, on était très actifs de 1992 à 2007. Après 2007, on n'a pas encore eu un financement sur la nutrition, ce qui fait que nous n'avons pas une action comme telle. C'est pour cela que j'ai dit que je ne peux vous avancer un nombre exact. Mais ce qui nous arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent que c'est le domaine de la MAP. Alors, il y a des parents qui nous amènent les enfants ici. Alors, comment on travaille avec ces enfants-là? Ces enfants-là, on travaille plus avec leur mère. Nous, on fait des démonstrations culinaires. On achète un peu de maïs, on achète un peu de soja, on achète de l'huile, on achète aussi des sucres. On montre à ces mamans-là, dont les enfants sont magnétiques, qui amènent les enfants encore, qui accourent encore vers la MAP. On travaille avec ces mamans-là pour leur montrer comment faire une farine enrichie qui peut aider leurs enfants. Pour des cas qui sont très, très prononcés, là, nous, on réfère directement vers l'hôpital général. Alors, pour des cas qui sont modérés, que les mamans, là, avec l'appui de la MAP, avec les conseils des mamans de la MAP, qui peut encore maîtriser, là, on interagit directement avec ces familles-là. Alors, dès qu'on a ces cas-là, on montre à la maman comment préparer la farine enrichie, en faire à bouillie à la maison, comment, par exemple, préparer les aliments enrichis, parce que déjà au niveau des familles, on doit assurer la nutrition pour toute la famille, tout simplement en faisant attention sur les éléments essentiels de la nutrition.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Toujours en Ituri, depuis 2017 jusqu'à présent, la production agricole a baissé à cause de l'insécurité. Et cela est l'un des facteurs de la malnutrition dans cette province. Une fois de plus, Madame Béatrice Duvet, coordonnatrice de l'ONG Association de Mamans Anti-Boaki, s'exprime au micro d'Ezekiel Mousalia. On l'écoute.
Mais est-ce que vous pensez que le nombre d'enfants malnutris a augmenté à Bounia? Parce que l'UNICEF justement venait de publier un rapport actuellement montrant justement le nombre d'enfants malnutris à Bounia, on est autour de 11 millions comme ça. Mais est-ce que vous pensez que avec la situation à Bounia, la situation en Ituri a impacté ou bien a joué un peu sur l'augmentation du nombre d'enfants malnutris dans la ville de Bounia?
Ça fait presque deuxième semaine aujourd'hui. Nous avons essayé de faire une activité à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Et au cours de cette activité-là, c'était une conférence, au cours de cette activité-là, la MAB a souligné ça. Tu vois, depuis 7 ans, depuis 2017 jusqu'à présent, au niveau de la province de l'Ituri, les productions agricoles ont baissé à cause de l'insécurité que nous tous vivons ici dans la province de l'Ituri. Et puis, il y a les déplacements presque quotidiens déjà. Il y a les déplacements même routiers, c'est très difficile. Donc, tout ça fait impacter sur la vie des enfants.
Mais vous pouvez estimer, c'est peut-être des dizaines d'enfants, des milliers, des centaines.
Au niveau de l'hôpital général, il y a 60 d'enfants. Donc là, je faisais le suivi d'un enfant qui était hospitalisé au niveau de la pédiatrie. Et comme la cellule nutritionnelle est juste à côté de la pédiatrie, il y avait déjà une 60 d'enfants hospitalisés, donc des cas assez graves. Alors, je disais, dans les milliers, il y a beaucoup de cas, les nuits, vous vous promenez dans les quartiers, vous vous promenez, vous entrez dans les cas, ou bien vous venez dans un milieu qui a beaucoup de concentration, même des personnes déplacées, même dans les quartiers, vous allez voir à l'œil nu des enfants qui présentent des signes de la malnutrition. Sauf que on n'arrive pas encore à organiser un screening nutritionnel ou un dépistage dans les milieux pour connaître les nombres exacts. Alors, les jours de l'enfant africain, quand on a touché cet aspect-là, la MAB a eu la recommandation des participants pour demander à ceux que la MAB puisse voir aussi de ce côté-là de nutrition. C'est comme ça, nous sommes dit, d'ici là, on va programmer une activité de screening nutritionnel dans certains milliers de Bounia. C'est à ce moment-là, on va directement connaître ça. Mais pour le moment, je n'ai pas le nombre que je peux vous avancer, mais est-il vrai que les cas sont là et les cas sont nombreux? Ça, c'est au niveau de la, que ceux qui manifestent la malnutrition et peu, est peu modéré. Mais les cas de marasme, c'est général. Vous voyez, même les enfants là qui sont dans la rue, même les enfants que vous rencontrez dans les communautés, même dans des églises, vous voyez que la santé n'est pas bonne. Il y a des enfants qui ont maigri. Et ça, c'est la malnutrition.
Mais vous, maintenant, au niveau de la MAB, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de ce métier?
Oui, une action nutritionnelle, c'est une action très dure sur les plans techniques. Il faut avoir des compétences acquises. Et cette compétence, nous avons, parce qu'au travail, nous avons avec nous une équipe nutritionnelle avec des nutritionnistes au niveau. Et puis, surtout sur les plans financiers, c'est une action très coûteuse. Très coûteuse. Ça, c'est alors. Quand on n'a pas des moyens financiers suffisants, on ne peut pas se lancer là-dedans. Nous, depuis notre naissance, on a tout dit, c'était notre vocation et ça reste notre vocation. Mais seulement, on ne peut pas se lasser à l'heure actuelle d'organiser une action de lutte contre la malnutrition tant que nous n'avons pas encore un financement conséquent qui peut nous permettre maintenant de travailler effectivement et efficacement pour relever la situation nutritionnelle des enfants au niveau de la ville de Bounia et au niveau même à l'intérieur de la province.
Oui. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés?
Donc, je disais, il y a difficulté là de financement que nous n'en avons pas. Et autre difficulté, c'est la sécurité. Tu vois, on se lasse, mais bon, les enfants, tant qu'il y a encore toutes ces attaques-là des miliciens, donc cette situation peut toujours persister parce que les parents seront obligés de se déplacer d'un milieu à l'autre. Ça c'est. Et puis, je peux souligner ça aussi, lors des attaques, il y a des attaques contre aussi les champs. Et puis, la grande majorité de la population de l'Ituri, surtout au niveau du territoire d'Enjougou, au niveau des territoires d'Irumu, les activités agro-pastorales, ça bascule. Il n'y a pas vraiment production à ce niveau-là à cause de la sécurité. Il y a Arou qui travaille, il y a une partie de Magui aussi qui travaille, mais les choses ne peuvent pas aussi passer facilement au niveau de Bounia. Tout ça, ce sont des difficultés qui font qu'il y a une installation. Donc, il y a une malnutrition installée au niveau de la province de l'Ituri.
Et vous avez quelles recommandations à formuler peut-être aux autorités pour permettre un peu aux autorités de prendre des dispositions pour s'occuper de la santé des enfants dans la province?
Ce qui est heureux est qu'il y a les clusters nutrition qui fonctionnent sous l'égide de l'UNICEF, je crois, qui fonctionne. Et à ce niveau-là, on a des données concrètes sur lesquelles on peut se baser pour organiser les plaidoyers. Mais est-il vrai que l'autorité de la province, elle connaît ça? Elle connaît ça parce que ça se passe dans sa province. Il faut des financements, il faut des gros financements à injecter dans la nutrition pour relever la situation nutritionnelle des enfants et des familles aussi, parce qu'à l'intérieur il y a toutes des familles, même des grandes personnes qui font les signes de la malnutrition. Et l'autre plaidoyer, c'est ce que nous allons demander encore à notre gouverneur. Oui, il se bat déjà suffisamment, mais qu'il se batte encore davantage pour qu'il y ait des calmes au niveau de la province de l'Ituri. Qu'on finisse avec toutes ces attaques-là, qu'on finisse avec tous ces phénomènes de miliciens-là, qu'on finisse avec ça pour permettre à ce que la population revienne dans les activités agro-pastorales. Parce que ce n'est pas tous ces aliments que nous pouvons avoir, soit des pâmes ou bien soit des... Quelle organisation, soit à travers le monde, qui peut nous aider? Ce qui peut aider la province de l'Ituri, c'est le retour sur les activités agro-pastorales.
Madame, vous avez continué?
Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Et puis, troisième recommandation, c'est ce que le gouvernement, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, qu'il fasse à ce que les programmes de PDDRCS puissent exister. Ça existe, oui, mais que ça puisse fonctionner, ça fonctionne, oui, mais il faut qu'on voie avec certitude, voilà, les programmes tels commencés. Il y a autant de miliciens qui ont remis, parce que le nombre de miliciens dans notre région, il y en a, dans notre province, il y en a. Si on voit la somme de tous les membres des milices, des groupes armés, c'est un nombre important. Qu'on voit réellement, il y en a autant de milliers qui ont remis les armes. Il y en a autant de milliers qui sont rentrés, par exemple au niveau des communautés, pour reprendre les activités ordinaires de la vie paysanne, qu'on voit il y a autant s'ils désirent d'aller même vers les services militaires qui sont partis là-bas, qui est pris, qu'on n'est pas les prix de ces phénomènes dans la province de l'Ituri. C'est le seul salut pour qu'on puisse relever la situation nutritionnelle dans la province de l'Ituri.
Madame Béatrice Duve, c'est un réel plaisir. Radio Capi vous dit merci.
Merci beaucoup.
Radio Okapi.
Cap maintenant vers le Sud Kivu, l'une des provinces les plus affectées par la malnutrition, avec 53% de taux de malnutrition chronique, comme le révèlent les statistiques 2023 de l'UNICEF. L'insécurité dans plusieurs villages, le manque d'infrastructures, la crise au Nord Kivu sont les différents problèmes multifactoriels qui ont conduit cette province à avoir le taux le plus élevé de la malnutrition en RDC. Qu'est-ce qui explique que le Sud Kivu est plus particulièrement touché par rapport au Nord Kivu qui fait face à la guerre? Nous en parlons avec le docteur Adolphe Niakassane, médecin pédiatre et fondateur de l'ONG Action Sociale Kesho Congo, engagé dans la lutte contre la malnutrition des enfants. Il pense que les efforts doivent être conjugués afin de proposer des solutions à cette problématique. Dans cet entretien avec Rachel Kissimbangu, il revient également sur les solutions locales que propose son organisation pour lutter contre la malnutrition. On l'écoute.
Docteur Niakassane, bonjour.
Bonjour.
Les dernières statistiques de l'UNICEF révèlent que les taux de malnutrition chronique au Sud Kivu est de 53%. Et c'est le taux le plus élevé en RDC. Qu'est-ce qui explique que le Sud Kivu est plus particulièrement très touché par rapport au Nord Kivu qui fait face à la guerre?
Au fond, il faut dire que le Sud Kivu connaît depuis pas mal d'années des problèmes liés à l'insécurité dans plusieurs villages, liés à la difficulté finalement pour les villages qui produisent de pouvoir écouler leurs marchandises, leurs produits de récolte. Mais également, il y a cette crise justement du Nord Kivu, donc la crise du M23, qui impacte aussi le Sud Kivu. On sait très bien qu'il y a des déplacés de guerre qu'on trouve dans la zone des santé de Minova et dans certaines autres zones de santé de notre province, en plus évidemment de la conjoncture générale du pays et même du monde qui fait que le coût de vie devient cher. Tout ça, ce sont évidemment des éléments qui expliquent que justement les taux de malnutrition ne font que croître. Alors, le Sud Kivu, comme je viens de le dire, je crois que nous sommes vraiment une province qui fait face à plusieurs problèmes, donc des problèmes multifactoriels liés non seulement à l'insécurité, liés à la présence des groupes armés dans certains coins de la province, liés au fait que les routes pour arriver dans plusieurs villages où on produit, où il y a vraiment de l'agriculture, sont difficiles, liés au fait que également la pauvreté au sein de la population augmente suite à la conjoncture générale du pays, mais aussi beaucoup de déplacés qui viennent du Nord Kivu et d'autres provinces, qui fuient les guerres. Tout cela, finalement, rétentit sur le taux de malnutrition chronique dans notre province qui augmente d'année en année. Je crois qu'il est important de souligner le fait que les efforts doivent vraiment être conjugués. Tous les acteurs doivent s'engager pour pouvoir proposer des solutions à cette problématique qui est grave. Il faut dire que les conséquences, les complications de la malnutrition sont telles que c'est l'avenir du pays qui est en danger. Quand on sait qu'il y a des enfants qui développent des déficits intellectuels, quand on sait qu'il y a des enfants qui deviennent vulnérables aux infections, puisque la malnutrition est un état d'immunodépression, quand on sait qu'il y a des enfants qui finissent en infirmité motrice du fait de la malnutrition, quand on sait qu'il y a un impact sur le développement économique, puisque la Banque mondiale estime qu'il y a des pertes de l'ordre de 3 à 8% sur le produit intérieur brut du fait de la malnutrition. Quand on sait également qu'il y a des conséquences sur le plus long terme, c'est-à-dire des enfants qui ont fait la malnutrition dans la basse enfance, sont prédisposés à développer les maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Et même maintenant, on parle aussi des maladies psychiatriques. Je pense que tout le monde doit vraiment s'engager dans cette lutte.
À Kishokongo, votre organisation sociale, vous proposez des solutions locales justement pour lutter contre la malnutrition chronique chez les enfants. Parlez-nous-en.
Alors, chez Kishokongo, effectivement, depuis le début, nous travaillons vraiment sur les solutions locales parce que nous sommes partis du constat que, au fond, les solutions que nous avons, qui sont efficaces, n'est-ce pas, qui nous aident, tellement, je veux dire, le plan Peanut, le lait thérapeutique, eh bien, souvent, on connaît des ruptures des stocks dans nos structures, que ce soit les centres de santé, les hôpitaux. Et c'est parfois des ruptures de stocks qui peuvent être prolongées. Nous nous sommes dit, chez Kishokongo, lorsque nous sommes en rupture des stocks, il faut qu'il y ait pendant ce temps des solutions qui nous permettent déjà de prendre en charge nos enfants. Et c'est là que nous avons vraiment imaginé comment travailler sur des produits locaux, les farines locales qu'on utilise pour faire les bouillies pour les enfants, pour faire les biscuits pour les enfants, de manière à ce que vraiment nous puissions répondre aux besoins qui sont énormes par rapport à la prise en charge de la malnutrition. Il faut dire que, comme je le soulignais, les ruptures de stock en intrants classiques, déjà depuis la pandémie du Covid-19, lorsque les frontières étaient fermées, les approvisionnements étaient quand même, moins réguliers, un peu plus difficiles. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine par la suite, qui a quand même impacté de manière globale la conjoncture mondiale. Donc, toutes ces raisons ont fait que, finalement, les approvisionnements soient vraiment difficiles et que donc, les solutions locales trouvent toute leur place pour pouvoir non seulement prévenir la malnutrition, mais aussi déjà prendre en charge des cas de malnutrition aiguë modérée. Parce qu'il faut dire que quand même pour les cas de malnutrition aiguë sévère, là, ce sont les intrants classiques qui doivent être utilisés.
Jusqu'à aujourd'hui, combien d'enfants avez-vous encadrés? Combien d'enfants avez-vous justement aidés à sortir de la malnutrition? Et à ce jour, c'est quoi les statistiques de votre organisation?
Alors, Kesho Congo a été créé en novembre 2015. 2016, il faut dire que c'était un peu, donc le tout début. On mettait en place notre stratégie, nos idées, notre vision. Et au fond, très vite, nous nous sommes vraiment mis au travail. Il faut dire que depuis 2017-2018, pratiquement chaque année, notre travail touche entre 40 000 et 50 000 enfants. Je dois dire qu'actuellement, d'ailleurs, avec un nouveau projet que nous implémentons dans le Sud Kivu et le Kasaï Central, nous touchons beaucoup plus d'enfants, autour de 300 000 enfants chaque année. Et c'est donc important de dire que le travail de Kesho Congo est là. Nous voyons des résultats. Ces résultats-là sont vus, sont connus, sont documentés. L'année passée, nous avons été conviés au Forum national de nutrition, le premier Forum national de nutrition par, n'est-ce pas, le Programme national de nutrition, le PRONANUT, et nous avons justement présenté notre travail. Mais je crois qu'il est important que tous les autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire, il est vraiment important qu'ils puissent conjuguer leurs efforts, travailler ensemble pour que l'impact soit beaucoup plus important et visible, de manière à ce que lors des prochaines enquêtes de nutrition, on remarque vraiment que donc la tendance s'améliore ou que donc les taux baissent sensiblement.
Et comment ça se passe chez Kesho Congo? Comment vous repérez les enfants? Comment ça se passe pour que vous arriviez à apporter votre appui dans ces familles dont les enfants souffrent de malnutrition?
Nous travaillons avec les relais communautaires. Donc nous nous inscrivons vraiment dans la politique, on va dire sanitaire, nutritionnelle de notre pays. Ça, c'est très important de pouvoir le dire. Donc on travaille avec les relais communautaires, mais aussi nous avons en fait des UNS, des UNTA, qui sont au milieu, en tout cas, de la population. On essaye vraiment d'aller dans des quartiers défavorisés, en plein milieu de la population, de manière à ce que lorsqu'il y a des cas dans la communauté, ces cas puissent être envoyés dans notre centre pour que nous puissions poser le diagnostic. Donc on travaille avec les relais communautaires, mais également nos centres accueillent justement des mamans qui viennent avec leurs enfants. Ces mamans-là sont formées sur comment repérer les premiers symptômes, n'est-ce pas, les premiers signes de la malnutrition. Donc, ce n'est pas difficile. On le montre aux mères, donc en leur disant, dès lors que vous remarquez qu'il y a tel problème, tel autre problème, faites attention, amenez votre enfant au centre pour que on puisse l'examiner et poser le diagnostic. Il faut dire que nous travaillons beaucoup aussi dans le cadre de la nutrition à assise communautaire. Une approche très très importante de notre programme national de nutrition. Donc notre travail insiste aussi sur le fait que les mères doivent être sensibilisées pour prendre part aux consultations prénatales, mais également pour qu'elles amènent leurs enfants pour les consultations préscolaires, donc les CPS. Donc voilà un peu, donc les relais communautaires, mais également nos centres qui sont vraiment dans les quartiers, là où vivent les populations défavorisées, de manière à accueillir les nouveaux cas.
D'où tirez-vous les moyens nécessaires pour arriver justement à appuyer ces familles atteintes par ce problème de malnutrition?
Nous avons, dès le départ, chez Kesho Congo, imaginé développer une activité génératrice de revenus. Nous avons une unité de production, d'ailleurs pas une, nous avons quelques unités de production, deux les unités de production ici à Bukavu, où on produit en fait des biscuits. Là, ce sont des biscuits qui sont commercialisés. Il y a du pain, il y a des galettes, il y a des beignets. Donc, ces produits-là sont commercialisés pour pouvoir, nous permettre d'être d'une certaine manière autonomes pour répondre à certains besoins qui sont urgents en dehors même de tout appui extérieur. Après, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui appuient notre travail. C'est pour moi d'ailleurs ici une occasion pour dire merci à tous les partenaires qui travaillent avec nous, qui soutiennent notre travail, puisque sans eux, ce serait vraiment difficile atteindre autant d'enfants, autant de femmes enceintes, autant de femmes allaitantes. Il faut vraiment qu'il y ait un appui. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'en appelle vraiment à tous les autres partenaires pour qu'il y ait beaucoup plus de synergie, pour que les gens travaillent ensemble de manière à adresser cette problématique.
Docteur Adolphe Nyakassani, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ce numéro Bana Okapi prend fin sur les antennes de Radio Okapi. La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante en RDC. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, un enfant meurt toutes les 6 secondes de la faim. Cela signifie plus de 5 millions chaque année en Afrique. La RDC est le plus touchée par la malnutrition au sein du continent, selon les agences du système des Nations Unies. 11 millions d'enfants souffrent de retard de croissance, 4 millions autres sont affectés par la malnutrition aiguë. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiokapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Merci à tous nos invités qui ont accepté de participer dans cette émission. Merci également à Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Rosalie Zawadi, Rachel Kessé et Stanislas Diumi qui ont coproduit cette émission. Une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Mise en onde de Pierre Diasinois. Une présentation de Sarah Sumbela Siwambanza. Je vous retrouve très prochainement, même heure, même fréquence.